Alors, ça fait pas mal de mois que nous traversons ce livre, et là, on s'approche à un des sommets. En fait, nous avons déjà vu à plusieurs reprises ce que les spécialistes de la Bible appellent les chants du serviteur. Donc, il y a plusieurs textes dans Ésaïe où on appelle ça un chant du serviteur. En fait, c'était ce qu'on appelle un texte messianique, parce que cela annonce le Messie. Le Messie, ce que veut dire celui qui a reçu une onction. Et en grec, le même mot, c'est Christ. Donc, Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie. Et donc, dans ces chants, nous avons déjà vu au chapitre 42, on présente ce Messie comme un roi. Au chapitre 49, on le présente plutôt comme un prophète. Au chapitre 50, dans une sorte de monologue intérieur, on voit la communion avec Dieu de ce Messie, avec déjà une première apparition de l'évocation de ses souffrances, mais aussi de l'assurance de la victoire finale. Et également, il y a un thème commun qui revient dans ces chants, c'est que le Messie est également un Messie pour toutes les nations, une lumière pour toutes les nations. Et ce n'est pas un Messie envoyé uniquement au peuple d'Israël, mais c'est un Messie pour toutes les nations. Et heureusement, parce que nous sommes là ce matin et donc le Christ est pour nous. Donc aujourd'hui, on passe à ce quatrième chant du serviteur, qui est le plus long, donc du chapitre 52, verset 13, et tout le chapitre 53. Un texte absolument extraordinaire. En fait, on peut dire que c'est un des sommets, non seulement du livre d'Ésaïe, mais de tout l'Ancien Testament, voire de toute la Bible. Et je savais que en traversant ce livre, que on allait arriver au chapitre 53, et j'ai tremblé un petit peu comme Moïse devant le buisson ardent, où on dit, ben, ôte tes sandales, c'est la terre sainte. Dans ce chapitre tellement extraordinaire que je me sens un petit peu comme cela. C'est un chant, comme nous allons voir, qui dépeint les souffrances de ce serviteur. Nous savons que c'est, en tant que chrétien, qu'il s'agit d'une prophétie concernant Jésus. Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, que l'on possède un texte aussi extraordinairement pertinent par rapport à la vie de Jésus. On savait que c'est une prophétie, ça ne peut pas être autre chose. Mais on est tout à fait autorisé à dire que ça concerne Jésus, parce que par cette fois, dans le Nouveau Testament, ce texte est cité, ce qui montre bien que les apôtres savaient bien qu'il s'agissait du Messie. Et donc, on va voir dans les souffrances quelque chose qui rappelle forcément la croix suivie de la résurrection de Jésus. Et donc c'est le cœur du message chrétien. Ce n'est pas sans raison que la croix est le symbole du christianisme, en quelque sorte. C'est bizarre qu'un instrument de mise à mort, hein, soit choisi comme symbole, mais nous allons voir pourquoi. Donc, j'ajoute, parce que je trouve que c'est important de le dire, donc là vous avez une petite photo d'un des manuscrits de la mère morte, hein, découvert en 46. On en a parlé à la conférence dimanche dernier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des spécialistes un peu sceptiques de la Bible au 19e siècle, début 20e siècle, ont commencé à promouvoir l'idée que les apôtres avaient en quelque sorte trouvé le moyen d'ajouter ce texte à Ésaïe pour essayer de prouver que Jésus était vraiment le Christ annoncé par le prophète Ésaïe. Et me voilà qu'en 1946, on trouve tous ces manuscrits, 10 manuscrits de la même ordre, et un des manuscrits le plus complet qu'on a trouvé, c'est tout le livre d'Ésaïe, que l'on peut trouver à Qumran. J'ai vu une partie à Jérusalem quand on était là-bas, donc il y a un musée pour cela. Et ce qui est intéressant, c'est que on atteste en quelque sorte l'existence d'Ésaïe bien avant Jésus, parce que au plus bas mot, ce manuscrit date d'au moins un siècle avant Jésus, l'an 100 avant Jésus-Christ. La fourchette de datation est entre 350 avant Jésus-Christ et 100. Mais admettons, même si c'est 100, un siècle avant Jésus-Christ, ce texte existait. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus remarquable que ce texte est tellement clair par rapport à Jésus. Et finalement, je crois que Dieu nous a conduits, parce que Michel a mis l'accent sur Jésus tout au long de la présidence. Et donc chaque fois que l'on prend la scène, de toute façon, on y pense. Donc on va regarder ce texte et on va le regarder en 5 fois, en 5 strophes, parce que normalement, on le divise en 5 strophes, un chant en 5 strophes. Les 5 strophes, les derniers sont un peu plus longues, les dernières sont plus longues que les premières. Alors, je propose de le lire strophe par strophe et de faire quelques commentaires. Donc, la première strophe, c'est Ésaïe 52, les versets 13 à 15, et j'ai donné le titre « La sagesse de Dieu est révélée ». Donc, je lis dans la Bible Second 21, mais il y a une ou deux fois, je vais citer une autre Bible où, me semble-t-il, ils ont fait un autre choix donc de mots et qui me convient mieux. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Donc, dans ce 4e chant, ce n'est pas le serviteur qui parle lui-même, à la différence du 3e. Et c'est l'Éternel lui-même qui dit, qui le présente, et dit « Mon serviteur réussira » ou la traduction du Sommeur dit « Voici mon serviteur et agira en toute sagesse ». Donc c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste. On va revenir à ça quand on verra le verset 15. Mais donc c'est la raison pour laquelle j'ai donné le titre « La sagesse de Dieu est révélée » par l'envoi du Messie, de son Fils. Et malgré, en quelque sorte, toutes les souffrances dont on va parler dans ce texte, le ton du début, c'est quand même ce serviteur gagnera en importance, sera très haut placé. À la différence de ce que certains auraient pu deviner pendant sa vie terrestre et pendant sa crucifixion. Malgré tout, là, il évoque en quelque sorte sa mort, sa souffrance, ses souffrances qui seront importantes au tel point que son visage sera défiguré. Parfois, on voit des images de Christ sur la croix. Et je n'ai pas l'impression qu'on voit autant d'agonie que cela. Donc cette semaine avec Marie, nous avons pu visiter l'exposition El Greco, donc au Grand Palais, et il y avait une image en particulier, on voyait Christ, c'était comme si bon, il tenait là sans effort. Mais ce texte nous dit le contraire. Et quand on connaît la cruauté de cette façon de mettre les gens à mort, ce n'était pas étonnant que son visage était défiguré à tel point qu'il était différent de celui des humains. Mais il y a une raison. Une raison, et ça le texte va nous l'expliquer un petit peu plus après, le verset 15, « Il purifiera beaucoup de nations ». Donc le mot « purifier » dans le contexte, c'est le mot utilisé pour les prêtres de l'Ancien Testament, qui par les sacrifices purifiaient le peuple. Mais ici, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur les autres chants, « Il purifiera beaucoup de nations ». Ce n'est pas uniquement le peuple d'Israël. Tout de suite, on annonce que l'étendue de cette purification est beaucoup plus large que seulement le peuple d'Israël. Et beaucoup seront étonnés, même les rois de la terre fermeront la bouche. Et je vais juste citer un texte du Nouveau Testament, on n'est pas obligé de le trouver, je le lirai, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, hein, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 20, où on revient à cette notion de sagesse. Et on dit de nouveau, on est un peu réduit au silence. Je lis, c'est Paul qui a écrit à l'église de Corinthe. Où est le sage, le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non-Juifs. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce choix de traduction. Mon serviteur, en fait, agira en toute sagesse. Parce que ça rappelle, en fait, certains textes du Nouveau Testament. La sagesse de Dieu va passer par l'envoi du Christ et tout ce qui va vivre. On passe à la deuxième strophe, Ésaïe 52, verset 1, 53, pardon, c'est une erreur là, 53, verset 1 à 3. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Ce que cela implique, c'est que Dieu, on le sait, a envoyé son Fils dans le monde. Mais ce n'était pas de façon percutante, pas de façon rayonnante, même sa naissance était, on le sait bien, dans une étable. Alors que les rois mages sont venus d'abord à Jérusalem, ils sont adressés à Hérode dans son palais. Si Dieu va venir dans le monde, ben c'est là qu'il va venir. Hein? Donc, ce n'est pas dans une étable. Et donc, quand il a envoyé son fils dans le monde, ce n'était pas de façon extraordinairement puissante. Il a fait suffisamment de choses pour le montrer. Jésus a fait des miracles. Il a donné un enseignement extraordinaire. Mais on ne sait absolument pas comment il était. On n'a pas d'image. Souvent, quand on fait un film sur Jésus, un film Hollywood, on choisit un beau mec, comme on va dire, pour représenter Jésus, mais on ne sait pas comment il était en fait. Et ici, on dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Et quand je pense à Philippiens, par exemple, un autre texte du Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, il dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Donc c'était un homme parmi les autres. Donc ce n'était pas son apparence, à la différence de certains. Certains rois de l'Ancien Testament disent dépasser de la tête des épaules les autres, donc c'est un grand personnage en quelque sorte. Bon, apparemment Jésus ne se démarquait pas physiquement des autres. Et également, je vais citer un autre texte du Nouveau Testament dans Romains chapitre 10 et le verset 16 qui dit, Paul discute pourquoi les gens ne croient pas forcément en Jésus. Il parlait de son propre peuple, donc peuple juif. Il dit, mais tous n'ont pas cru à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? En citant Esaïe 53, qui a cru? Et on peut toujours se poser ces questions aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions de plus pour croire en Jésus? Bon, mais rien, c'est sa grâce, c'est qu'il nous a appelés, hein, que ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, que nous sommes meilleurs que les autres. Donc, le verset 2 dit, il a grandi comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre. Donc, ça veut dire qu'au début, c'est tout petit, hein. Il y a plusieurs autres textes de la Bible qui parlent de Jésus, déjà comme un rejeton ou un rameau, dans Ésaïe chapitre 11, dans Zacharie, je ferai venir mon serviteur le germe. Donc, c'est une façon de dire qu'au début, c'est tout petit. Quand on plante quelque chose, une plante, une petite semence, ça commence à sortir de terre, c'est rien. Mais ça va grandir et ça va devenir quelque chose de plus important par la suite. Ce qui fait que, quand j'arrive au verset 3, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, en détourner la tête. On l'a méprisé. C'est comme si, en particulier devant la croix, les gens pouvaient dire en quelque sorte, ah ben, celui-là, il a dû quand même faire quelque chose de mal, hein, donc sinon il serait pas là. Donc, il a dû le mériter quelque part. Et les chefs religieux auraient pu dire, mais voyez, vous croyez en votre Jésus, wow, c'est un beau parleur, il a dit des choses intéressantes, mais il fallait pas qu'il blasphème. Parce que là, il est mort sur une croix, et pour les Juifs, avec un verset de l'Ancien Testament, tout mort sur un bois, pendu ou crucifié, était quelqu'un de maudit. La malédiction reposait sur cette personne. Donc les gens disaient en quelque sorte, voilà, ce Jésus-là, il n'avait rien pour attirer les regards, il le voilà maintenant sur une croix, bon, il n'y a pas de raison de croire en lui. Il a certainement mérité cela quelque part. Et c'est là où on approfondit les choses, à la troisième strophe, les versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, dans un sens, quand les gens disaient, ah oui, mais c'est Dieu qui le punit, en fait, ils avaient raison. Mais plus qu'ils ne pensaient. Parce que c'était dans le plan de Dieu que son Fils, en venant dans le monde, puisse souffrir à ce point. Parce que, on le voit ici, lui, l'innocent, l'apôtre Pierre dit qu'il n'a pas connu de péché, il n'a jamais commis de péché. Pierre l'avait accompagné pendant minimum 3 ans. Donc je pense qu'au bout de 3 ans, on sait que si quelqu'un est parfait ou non. Je pense que si on devait se côtoyer pendant 3 ans, on saurait à la fin qu'on n'est pas aussi parfait. Mais non, Pierre a dit qu'il était sans péché. Et donc la condamnation que nous méritons, parce que nous sommes tous pécheurs, Dieu l'a fait tomber sur une victime innocente. Et c'est pour ça que sur la croix, Jésus s'est écrit en citant le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que pendant la seule instant de toute l'éternité de communion entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, il y avait quelque chose de rompu, parce qu'il portait à ce moment-là nos péchés. Et le péché sépare. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il a subi cette punition à notre place. Et qu'est-ce que ça donne? Il y a plusieurs mots qui sont mentionnés là. Pardon, la paix. Ça nous donne la paix. Ça nous donne la guérison de notre être. C'est le retour de la brebis perdue. Excusez-moi, je n'ai pas lu le verset 6. Tout à l'heure, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Donc, il nous donne la paix. Il nous donne la guérison. C'est le retour de la brebis perdue. On en a parlé au culte dimanche dernier. Et donc, tout cela, les apôtres l'ont annoncé. Donc, je vais juste lire quelques versets de Pierre. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2. Quand il dit, en citant d'ailleurs ce texte, « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris, Ésaïe 53, vous étiez en effet comme des brebis égarées, donc il cite Ésaïe 53. Et un petit peu plus loin, il dit, Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés, lui le juste, il a souffert à la place des injustes afin de vous conduire à Dieu. C'est le chemin à Dieu qui est ouvert, parce que ce qui nous séparait de Dieu, notre péché, est complètement éliminé, supprimé, pardonné par la croix. Et de son côté, l'apôtre Paul, je pense à dans l'épître aux Romains, chapitre 5, dit « Ainsi donc, déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la paix, la guérison de notre comportement, la brebis perdue qui revient au berger, tout cela a été acquis par le fait que nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, mais c'était vrai. Il était puni et frappé par Dieu. Ce que les gens n'avaient pas vu tout de suite, que ce n'était pas pour lui, mais pour nous. C'est extraordinaire. Quatrième strophe, c'est les versets 7 à 9. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Elle a été enlevée sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui se souciait de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. on dit parer un agneau qu'on mène à l'abattoir. Donc il y a deux raisons de parler de l'agneau. Bon, d'abord parce que nous l'avons chanté tout à l'heure, Michel a choisi un chant sur l'agneau. L'agneau était la bête la plus souvent sacrifiée pour les péchés dans la religion juive. Et donc c'est pour ça que Jean-Baptiste a pointé le doigt vers Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Première raison. Deuxième raison, un agneau, bon, c'est pas un loup. On le conduit là où on veut et on dit qu'il était devant ses juges comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche et c'est exactement ce que Jésus a fait. Si je lis le récit de Jésus devant le gouverneur romain Pilate, Matthieu chapitre 27, il dit, Jésus comparut devant le gouverneur Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus dit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tous ces témoignages qui portent contre toi? Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc, Jésus n'a pas résisté à son arrestation dans le jardin de Gethsémané. Il n'est pas résisté devant le Sanhédrin, donc le Parlement juif. Il n'a pas résisté devant Pilate, le gouverneur, parce qu'il savait qu'il devait donner sa vie. Donc, il a été arraché à la vie, comme le verset 8 le dit, enlevé, exclu de la terre des vivants, sans qu'on s'en soucie trop. C'était à l'époque des Romains un petit fait divers. Je crois qu'à Rome ce jour-là, c'était pas sur le premier titre de TF1. Donc, bon, il n'y avait pas TF1, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'était pas connu. Et même le verset 9 est intéressant, entre parenthèses, parce qu'on a dit, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, parce que d'un côté, il était crucifié au milieu de brigands. La crucifixion était réservée aux plus grands brigands, terroristes, etc. Mais de l'autre côté, un homme assez riche, Joseph d'Arimathée, est venu réclamer à Pilate le corps de Jésus pour l'enterrer dans un tombeau qu'il avait lui-même creusé dans une roche. Est-ce que c'est pour sa propre tombe? On ne sait pas. Mais il a été quand même enterré dans un tombeau de riches. Donc, crucifié avec des brigands, enterré dans un tombeau de riches. Et là, on aurait dit, alors, si ça s'arrêtait là, il n'y aurait rien à dire. Même avec, donc, dans les épîtres. Si Jésus n'est pas ressuscité, à quoi bon? Mais la cinquième strophe de ce chapitre, c'est que le plan de Dieu aboutit à la victoire. Donc, je vais lire du verset 10 à la fin du chapitre, les versets 10, 11 et 12. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière. Et il sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et partagera le butin avec les puissants. Puisque c'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il était compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, il est intervenu en faveur des coupables. Donc, le prophète Ésaïe souligne, comme le titre que j'ai donné au verset 10, « La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » C'était prévu. Ce n'était pas un accident de l'histoire. Ce n'était pas un travers de la justice humaine. On peut le voir à ce niveau-là, mais ce n'était pas vraiment ça. C'était prévu par l'Éternel pour que, finalement, ce fils ressuscité, hein, donc on dit verra la lumière, au verset 11, donc c'est une façon de dire qu'il reviendra des morts, et il verra une descendance. Il verra une descendance. Des millions de personnes. Donc nous sommes là aujourd'hui, on fait partie de cette descendance. Et il vivra longtemps, parce qu'il est ressuscité. Et j'aime beaucoup ce verset 11, il sera satisfait. Il a vraiment accompli ce qu'il est venu faire. Il sera satisfait. Il aura une descendance, il vivra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce verset 11 aussi évoque un terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Il dit « Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. » Et le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament tout le temps, c'est un terme juridique, « justifié ». Il sera justifié. Il nous justifie. Donc, ça veut dire que devant un tribunal, à la fin du procès, le juge va soit déclarer l'accusé innocent ou coupable. Dans ce verset-là, dans ce terme-là, juste ou coupable. Et devant le grand tribunal de Dieu, nous, quand on apparaîtra devant Dieu à la fin de notre vie, dans un sens, on sera conscient que nous n'avons jamais été à la hauteur. En même temps, on aura, et le Nouveau Testament parle de Jésus comme un avocat, l'avocat dira, mais je payais pour lui. Nous serons déclarés justes ou innocents parce que quelqu'un d'autre a payé à notre place. Donc, la conclusion au verset 12, il revient un peu au point de départ pour vraiment insister. Deux choses. D'abord, il portera le péché de beaucoup d'hommes. Donc ça, c'est la fin de la phrase. Et juste avant, il aura un butin qui partagera. Et je pense que le butin, en quelque sorte, c'est ce que le roi reçoit après une victoire. Et ce butin, c'est tout ce que le roi victorieux nous donne, tous les bienfaits de notre salut, le pardon du péché, la réconciliation avec Dieu, une vie nouvelle, une famille. On fait partie de la nouvelle humanité, selon Éphésiens 2, la vie éternelle. Tout ça fait partie du butin qu'il partage avec nous. Je pense que, comme je dis, on tremble devant ce texte tellement il est beau et vrai et pertinent et annonce Jésus 8 siècles avant sa venue. Pour essayer juste de terminer avec une petite histoire, pour essayer de comprendre toute la richesse de cela. C'est une histoire que j'ai déjà racontée ici, peut-être 2 ou 3 personnes l'ont déjà entendue, mais peut-être pas beaucoup. Quand j'étais pasteur au Plan-Ménil, le jeudi, il y avait un marché, un grand marché, et notre église en avait un petit stand où on vendait les Bibles. Bon, c'était super, il y avait tellement de monde qui passait, beaucoup de gens discutaient avec nous. Et à certains moments, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un syndicaliste retraité. Très sympa, il vient discuter, un homme très avenant, puis il me dit, moi, j'étais militant toute ma vie, j'étais syndicaliste, mais je me rends compte aujourd'hui que ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Puis, m'avez-vous, il dit, ça fait 2000 ans, ça n'a pas changé grand-chose non plus. Bon, alors, j'ai dit oui, mais en fait, peut-être ça n'a pas changé tout sur la Terre, mais aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes qui, à cause de Jésus, pour la vie éternelle auprès de Dieu. C'est changé quand même quelque chose. Et donc, il s'attendait pas à cette réponse. On a continué à discuter. Et c'est une petite discussion qui m'est restée dans la tête parce que c'était tellement, tellement fort de voir sa tête quand j'ai dit ça. Donc voilà. Avec ce message, on pourra plus vivre simplement pour soi-même avec nos petites idoles. Il faut saisir ce salut et transmettre cette bonne nouvelle autour de nous, évangile qui veut dire bonne nouvelle.